Alors, bonjour à tout le monde. Alors, je ne sais pas si ça vous fait cet effet. Quand j'entends Bob Dole, il y a un feu, ça atteste. Il y a même une excitation. Non, ça ne remue pas en vous, il y a une ébullition. Merci Bob pour cette parole tellement, tellement encourageante. En plus, cette église Josué, elle est au pied des vignobles. Les vignobles sont pleins de grappes. Donc, l'emblème de Josué, c'est effectivement le chauffard et une énorme grappe.
Oui. Pardon de vous interrompre, mais attention aux parents, je pique les babysitters. Donc les enfants sont sans surveillance.
Donc le chauffard, les grappes de raisin, Bob nous parle d'une énorme grappe. On sent que c'est le temps, donc d'où l'excitation. Et puis l'appel à la prière pour lever les ouvriers. Alors, du coup, je vais commencer un petit peu différemment le message. Ésaïe 6. Je vis le Seigneur sur un trône. Bon, l'année de la mort du roi Ozias. L'année de la mort. Je vis, regard prophétique, je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Donc, on voit le Seigneur immense, grand. On voit. Nos yeux sont lavés, purifiés de tout ce qui est de la mort autour. Et on voit le Seigneur sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplit le temple. Le pan de sa robe remplit le temple. Le temple, c'est nous. Collectivement, individuellement, nous sommes le temple de Dieu. Vous êtes d'accord, hein? Amen. Vous n'imaginez pas le temple de Jérusalem à l'époque. Voilà. Bon, nous sommes le temple. Le pan de sa robe. Et là, il faut regarder les Strong, c'est tout et tout et tout. Et le pan de sa robe, ça parle de la robe du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Et quand on dit le pan, c'est une partie très particulière de la robe du sacrificateur sur laquelle se trouvaient les grenades et le clochette d'or. Donc le pan de sa robe remplit le temple. Nous sommes ce temple, individuellement, collectivement. Le pan de sa robe, donc nous sommes, c'est notre destinée appelée à être rempli de grenades et de clochettes d'or. Les clochettes d'or, entre autres, ça peut parler de l'adoration, et les grenades, eh bien, oui, les grenades, on va reparler des grenades. Voilà. Les grenades, c'est la parole de Dieu, la parole vivante, la parole fructueuse, la parole qui perce les ténèbres, la parole qui envahit, qui a un impact dans les lieux spirituels, la parole de vie. La parole de vie. J'ai publié une loi grande, magnifique, une parole de vie. Et puis... c'est trop fort, enfin, je sais pas si vous, je pense que vous aimez. Hein. Vous êtes dans des situations confrontées à de la mort et le Seigneur vous donne des paroles de vie. Moi, ça m'est arrivé avec des SDF. Des SDF, et puis je fonce et puis je leur donne des paroles de vie. Tu es appelé à ta, vous êtes appelé à ta, 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 c'est trop, trop fort, c'est trop fort. Et puis pareil pour les élèves aussi, hein. Des paroles de vie sur les élèves, c'est magnifique. On est appelé à être rempli de paroles de vie, de la parole. Bon, tout ça, c'était même pas prévu. Bon, bref. Donc, c'était juste avant l'intro. Donc, je voudrais faire référence au message précédent. Alors, pour ceux qui sont un peu nouveaux, vous avez tous les messages enregistrés sur le site Josué. Et donc, je fais référence spécifiquement à trois messages de Luc. Alors, il a fait trois messages sur la maison d'intimité. Et ça nous encourage tous à occuper de manière équilibrée et harmonieuse les différentes pièces de la maison. Et pour voir si vous avez bien écouté, est-ce que vous vous rappelez la dernière partie de la maison qu'il a évoquée? La toute dernière partie, la dernière pièce, ou le dernier lieu de la maison, c'était quoi?
Le jardin?
Non, c'était pas le jardin. C'était le grenier. Ah, il y en a qui ont bien retenu. C'était le grenier. Et il avait parlé, bon, le grenier avec des grains, avec toutes les provisions, mais aussi il avait parlé de la chambre haute, la dimension d'amitié de Dieu. Alors, petit rappel. Nous sommes, bon, Jésus est notre ami. On apprend ça dès l'école du dimanche. Jésus est notre ami, Jésus est mon ami. Oui, grosse question. Est-ce que nous sommes l'ami de Dieu? À savoir, est-ce qu'il peut nous confier ce qui est vraiment sur son cœur? Est-ce qu'on connaît son cœur? Est-ce qu'on comprend ses voies, ses projets? Est-ce qu'on partage ses préoccupations? Grosse question. Hein. Est-ce que nous sommes l'ami de Dieu? Et donc, il nous avait dit, juste à la fin de son troisième et dernier message, cette relation d'amitié nous amène au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Vous avez juste évoqué ça. Hein, voilà. Et puis, Fabrice, la semaine dernière, a fait un message sur la persuasion. Et il avait dit son rêve, partagé son rêve, qui est notre rêve à nous tous, que cette église, et puis moi je dirais toute l'église de France, hein, toute l'église de France, soit une église d'adoration, d'intercession. Vous vous rappelez, avant persuasion, il a dit quelque chose d'autre pour vérifier si ça avait bien écouté. Adoration, intercession, et persuasion. C'était quoi la quatrième chose? Action, bravo, action. Adoration, intercession, action, persuasion. Donc, avec cette dernière phrase de Luc, et puis ce qu'a cité Fabrice, il a beaucoup parlé de la persuasion, parce qu'on travaille beaucoup en rhétorique à l'école Daniel, où il sait, hein, d'ailleurs. Voilà. L'accent, le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur l'aspect de la sacrificature. La sacrificature, donc aspect intercession. Sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Alors, c'était sur mon cœur, et puis le Seigneur a mis une confirmation, mais énorme, de ce sujet qui est pour ce dimanche. Alors, c'est pas rien. Dimanche prochain, enfin, là, le vendredi prochain, nous changeons d'année biblique. C'est Rosh Hashanah, nouvel an hébreu. On change d'année, on change de saison. Donc, on est dans ces derniers temps de cette saison actuelle. Après, on change. Donc, c'est pas rien. Et donc, pourquoi la sacrificature aujourd'hui, ce dimanche, et pourquoi je sais que c'est le sujet que Dieu veut qu'on traite? Eh bien, parce que deux choses. J'ai regardé un peu la paracha et la haftara. Non, bon, je traduis. Hein. Paracha, c'est les Juifs du monde entier. Ils ont des lectures de Torah et des prophètes par petites portions. Ils lisent tous la même chose partout en Israël et partout dans la diaspora. Et donc, la haftara, c'est les écrits prophétiques. La paracha, c'est la Torah. Et la haftara, le premier verset, c'est Ésaïe 61, 10. Alors, on va le lire. Ésaïe 61:10. Donc c'est après il y a tout un passage, mais c'est le tout premier verset. 61:10. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le fiancé s'orne d'une parure, tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atours. Comme le fiancé s'orne d'une parure, tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atours. En 61:10, ça parle déjà de la sacrificature, mais dans un contexte de joie, de salut et de préparation de noces. Le Seigneur prépare son épouse aux noces de l'agneau, on le sait. Donc, joie, salut, préparation de noces, et c'est le cadre de la sacrificature. Et alors, le Seigneur a sorti le très grand jeu. Ésaïe 61:10, déjà, premier texte, premier verset de la phrase, c'est déjà pas mal. Mais, qu'est-ce que vous y se passe? À l'établissement Daniel, vendredi, du bout de ma fenêtre, je vois, parce que j'habite au château, je vois des tas de chaises qui se mettent en place, des tas de choses qui se préparent. Un petit peu curieuse, je vais voir ce qui se passe. Et puis en fait, plusieurs le savent, hein, c'est notre ancienne élève, qui fait partie de cette forêt magnifique qu'a vue Huguette, hein, Barbara, qui allait célébrer le lendemain son mariage civil. Et tenez-vous bien, donc elle était fiancée, quand je l'ai vue vendredi, le vendredi ou le soir même, on parlait des fiancés de Ésaïe 61:10, je discute un petit peu avec Marie-Christine, on discute un petit peu avec Barbara, qu'est-ce que j'apprends? Barbara est très, très, très investie à Toulouse dans la formation à la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Il faut le faire quand même. Et son mari, futur mari, aussi. Donc on a deux fiancés dans la joie du mariage civil qui a lieu hier, donc, et qui sont tous les deux investis dans la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Si ce n'est pas énorme. Sur l'établissement Daniel, en plus, ça se passait. Est-ce que vous voyez le clin d'œil énorme du Seigneur, et qui veut dire aussi que cette jeune génération, hein, cette forêt magnifique d'arbres, est appelée en particulier à la sacrificature. Mais, vous voyez, le Seigneur a lourdement insisté encore ce matin, dans un contexte de joie, de préparation des noces de l'agneau, et un contexte aussi de grâce. Référence au message de Julie il n'y a pas longtemps, la grâce transformatrice de Dieu, et tout se fait par la grâce. Et en grec, d'ailleurs, grâce et joie ont la même racine, car. Donc voilà, grâce et joie, c'est associé. La joie. Et la joie, elle est notre force, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'était pour donner un petit peu le contexte. Et puis, vous connaissez tous 1 Pierre 2:9, nous sommes appelés à être un corps de roi prêtre ou de roi et sacrificateur. C'est un sujet immense, immense, immense. Il passe des mois et des mois, ils n'arrêtent pas de, on n'arrête pas d'approfondir le sujet, hein, un sujet immense. Donc, en quelques minutes, on ne va pas traiter le sujet. Hein. Mais il y a peut-être deux sujets, au moins, ouais, on va voir deux aspects. Et première chose, alors là, on est en terre d'Alsace. La terre d'Alsace, elle est marquée par une triple influence, une triple culture. Alors, vous allez tous me dire la culture germanique, la culture française et la culture hébraïque. Oui, alsacienne. Bon, voyons, qu'en dis-tu, chère alsacienne ? Culture alsacienne en plus, 4 cultures, c'est ça ? Hébraïque. Et figurez-vous que dans un petit cimetière très, très paisible, un petit cimetière israélite à Yungholz, vous avez une toute petite tombe bien cachée. Moi, j'ai découverte dans le cadre d'une visite, hein, où il y avait des commentateurs. Une toute petite tombe, et sur cette tombe, quelque chose de très touchant. Il n'y a pas de croix, évidemment. C'est une tombe israélite, il n'y a pas de croix, c'est sûr. Mais il y a autre chose. Vous avez sculpté sur la tombe deux mains qui bénissent. Et c'est une tombe de Cohen. Cohen, c'est-à-dire sacrificateur. Vous voyez, au fin fond de ce petit cimetière, c'est tellement touchant. Une tombe d'un Cohen. Cohen, ça veut dire sacrificateur. Hein. Tous ceux qui s'appellent Cohen, que vous voyez, c'est qu'ils sont descendants d'Aaron. Et ils bénissent. Alors, c'était une tombe du 19e siècle, peut-être, 18e, 19e. C'est très touchant que dans notre région, l'Alsace, il y a eu un descendant d'Aaron dont le ministère était de bénir. Et en fait, le premier mandat d'un sacrificateur, donc de nous tous, c'est de bénir. Et là, on est complètement aligné avec la volonté de Dieu, qui veut bénir. Et rappelez-vous, pendant la pandémie, quel était le chant qui tournait en boucle partout sur la planète entière. Et là, l'Église a vraiment exercé son ministère de sacrificateur. Hein. C'était la bénédiction, the blessing. On l'a chanté dans toutes les langues. On a vraiment, l'Église mondiale a vraiment exercé son ministère de sacrificateur. Et je voudrais qu'on le prenne, nombre 6, 22, 27. Je suggère qu'on le sache tous par cœur. Hein. Parce que c'est une bénédiction complète. Donc Aaron, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron et à ses fils. Donc c'est nombre 6, versets 22 à 27. C'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et veille sur toi. Que l'Éternel répande la clarté de sa face sur toi, qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et te donne son shalom. Ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et moi je les bénirai. Là vous avez la nature même du Père, son désir profond c'est bénir. La première chose que Dieu a faite quand il a créé les êtres vivants, c'est il les a bénis. Les poissons, les oiseaux, les mammifères, il les a bénis. Et puis évidemment l'être humain aussi, il les a bénis. La nature de Dieu c'est de bénir. Et cette bénédiction, elle est complète. Alors, juste quelques éclairages. Hein. Quand on parle de « qui veille sur toi », c'est la référence pour parler du berger qui garde son troupeau, qui veille sur son troupeau. Et nous sommes donc dans l'idée de prendre soin, de veiller, de faire attention, de protéger. Que l'Éternel veille sur toi. Que l'Éternel répande sa clarté sur toi ou t'éclaire. Ça parle de faveur, de bienveillance. Ça parle de lumière, je dirais de révélation aussi, hein. Qui te fasse grâce, c'est le terme Han qui a donné le prénom Han d'ailleurs, la grâce imméritée, qui te fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers toi, et ça parle de la bienveillance de Dieu, et qu'il donne son shalom. Sa shalom, c'est un terme vraiment, vraiment énorme qui parle de paix, de plénitude, de complétude. Enfin, c'est un terme hébreu à traduire en français qui est absolument énorme. Ils mettront mon nom, mon identité, ma nature sur les enfants d'Israël. Et moi, je les bénirai. Donc quand on bénit avec la bénédiction de nombre, on est aligné avec le ciel. On ne peut pas se tromper. Et de manière générale, hein, quand on prie, on est encouragé à utiliser les prières bibliques. Là, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. Et il y a plein de prières bibliques, plein, que le Seigneur nous inspire. Hein. Et je voudrais qu'on fasse une petite mise en pratique. Alors, Hugues, que tu mettes dans les mises en pratique, modalités pratiques, qu'on puisse bénir des personnes qu'on a sur le cœur. Ça peut être le peuple marocain, ça peut être des gens de notre famille qui sont dans la grande difficulté, etc. etc. Qu'on se mette par tout petit groupe, hein, peut-être deux, trois, enfin, petit groupe, pour que chacun puisse prier. Et cette prière de nombre, 6, sur des personnes qui sont sur notre pectoral, qu'on a à cœur, voyez.
Donc, voilà, pour la mise en pratique. Donc, tournez-vous peut-être, ça peut être en couple, ça peut être par 2-3, ça peut être un peu plus. Mais l'idée, c'est que chacun ouvre sa bouche et bénisse. Ça peut être une famille, ça peut être une région, ça peut être ton église. Voilà, l'idée, c'est de mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre, nombre 6. Donc, n'hésitez pas, désolé de vous déranger un peu, mais voilà, je crois que c'est important. Il y a une capacité pour chacun de nous d'être sacrificateur, un appel, et ça commence par un appel à bénir. Voilà, vous êtes prêts ? Hein, ça peut être, il n'y a pas besoin de faire des éclats de voix, hein, ça peut être simplement une prière, mais il faut la dite. Voilà. Alléluia. Donc on prend ce temps, on va prendre 3-4 minutes, hein, c'est pas long. Voilà, je donnerai le top, je vous préviendrai quand on termine. Allez, on y va les amis, on est des sacrificateurs, on veut bénir maintenant, prendre un temps pour bénir. Terminez votre prière et on continue. Voilà, deuxième partie. Vous êtes chaud ? Tu finis la première.
Alors, je finis la première avec une petite anecdote. Là, chers frères et sœurs, je me mets avec, tout va bien. Vous êtes dans un contexte propice à la bénédiction. C'est dimanche matin, on est reposé, tout va bien. Petite anecdote. Mercredi, je faisais mes courses à Leclerc. À côté. Et puis, je suis assez pressée, hein. J'arrive à la caisse et devant moi, une dame qui prend son temps. Mais elle prend son temps. Elle n'avait rien à faire qu'il y ait du monde qui attendait derrière. Rien. Elle prenait tout son temps. C'était moi. Et moi, je commençais, vous savez ce que je veux dire, c'est l'irritation qui monte. L'irritation monte. Et puis, comme quand même on est rempli du Saint-Esprit, hein, petite voix du Saint-Esprit, fais-tu bien de t'irriter ? Il a dit ça à Jonas, hein. Fais-tu bien de t'irriter ? Tu sais, tu ferais mieux de bénir. En plus, je te rappelle que c'est ton message de dimanche. Je suis obligée d'obéir, hein. Alors j'ai obéi, même pour me repentir de m'être irritée, j'ai béni encore plus que je pensais. Je peux vous garantir qu'elle n'était pas du tout de notre religion. Donc, je l'ai bénie, vu sa tenue vestimentaire. Donc, je dis, elle a vraiment, vraiment, vraiment besoin du salut en Jésus. Donc, on va prier le salut, tout ça. Je l'ai bénie. Les messieurs, je vous propose la même chose quand vous êtes derrière des voitures pas possibles, sur la route, avec des comportements automobiles pas possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, les profs, quand on a des élèves pas possibles, bénir. Fais-tu bien de t'irriter? Donc, c'est très bien de pratiquer là. Je nous encourage à pratiquer dans d'autres circonstances. Voilà, bénissez. Et la parole nous dit, car c'est à cela que vous êtes appelés à bénir, afin d'hériter la bénédiction. Et puis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. Et le Seigneur, dans sa grande sagesse, nous met toujours autour de nous des gens pénibles pour qu'on puisse pratiquer la bénédiction, aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous font du mal, vous persécutent, etc. Et puis après, la fin, c'est extraordinaire. Vous serez parfait comme votre Père est parfait. On va refléter le Père, manifester le Père. Donc la prochaine fois que vous, moi, on aura quelqu'un de pénible à supporter, Seigneur, merci pour l'extraordinaire exercice, parce que j'apprends à être comme toi, le Père qui fait briller son soleil sur les bons, les méchants. Et en début d'année scolaire, je trouve que c'est très bien de nous encourager, nous les profs, avec ce type de... On va les bénir, et spécialement les plus terribles. Alors on les bénit beaucoup. Et après, ça devient des gens formidables. On a des preuves. On a eu des anciens élèves qui... Bon, pas de dessin, mais on sait. Voilà. Alors ça, c'était l'aspect vraiment sympathique. Enfin, bénir. Enfin, c'est pas si sympathique, faut pratiquer quand même. Hein, dans le quotidien, c'est pas si simple que ça. Mais le réflexe, on a... Et puis, il y a une puissance de bénédiction. OK. Maintenant, deuxième aspect, c'est le deuxième et dernier. Hein. Ça, c'est un peu plus costaud, mais c'est en même temps très, très, très actuel. Nous sommes appelés en tant que sacrificateurs à nous tenir entre la mort et la vie. Hein ? La mort et la vie. On a ça dans Nombre 17. Vous savez, il y avait une plaie, la mort qui grandissait, qui prenait du terrain. Et Aaron, il a couru, sacrificateur, il s'est tenu avec l'encensoir d'or, tenu entre la mort et la vie, et la plaie s'est arrêtée. Donc, sacrificature, c'est aussi confronter la mort, et puis ça s'arrête. Et là, à ce sujet-là, c'est pas rien. On va prendre un passage, mais avant, pour donner le contexte, je vais prendre un passage, pas du tout biblique, mais un passage de littérature française. Donc, les profs sont appelés à se taire. Les profs. Voilà. Et je vais pas dire le mot, voilà, je vais dire juste ta, au lieu du nom, parce que sinon c'est trop facile. Je vais vous demander qui est en train de parler dans cet extrait. Un songe. Me devrais-je inquiéter d'un songe ? Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout. Partout, il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère, ta, devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté, même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables. Ma fille, en achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit a paru se baisser. Et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser. Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'eau et de chair meurtrie et traînée dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Contexte. Qui est en train de parler ? Qui est le personnage qui dit ça ? Alors les profs, ils se taisent, donc forcément, ça va être plus difficile. Tous les profs, les profs de maths se taisent. Et les profs de français, on n'en parle pas. Personne n'a trouvé ? Bon, Luc, il sait. Hein. Contexte. C'est Racine qui a écrit ces magnifiques alexandrins. Alors, si c'est quelqu'un qui dit le cruel Dieu des Juifs, c'est forcément pas un Juif qui parle. Certainement pas un Juif. C'est même un ennemi redoutable des Juifs. Personne ne voit. Ma mère, Jézabel. Donc, il s'agit de la terrible, si c'est sa fille, c'est... Alors, ça, c'est la Bible, par contre. Hein. Ça, c'est pas la littérature, c'est la Bible. La terrible Athalie. Hein, Athalie. Alors, elle a usurpé la royauté, donc elle règne. On est dans 840 avant Jésus-Christ, à peu près. Et non seulement elle règne, mais elle a la volonté implacable de tuer toute la descendance royale de la maison de Juda. Deux Chroniques 22:10. Elle veut tuer, y compris ses petits-enfants. Terrible, terrible, terrible. Athalie, mère, donc, Deux Chroniques 22, verset 10. Athalie, mère d'Ahazia, vit que son fils était mort. Elle se leva et fit périr toute la descendance royale de la maison de Juda. Donc sa volonté, c'est aussi d'annuler la promesse que Dieu a faite à David, hein, qui est toujours quelqu'un de la descendance de David. Elle voulait complètement détruire cette promesse. Donc, c'est exactement ce qu'on a actuellement devant nous. On a des puissants de ténèbres qui veulent, de façon implacable et systématique, détruire la vie. Alors la vie biologique, la vie psychique, la vie spirituelle, destruction de la vie, destruction de l'innocence, je ne trouve pas de dessin, hein, destruction de l'innocence, destruction de l'identité, je ne trouve pas non plus de dessin, destruction de l'identité, destruction de l'espérance et destruction de la destinée. Des puissances terribles qui agissent actuellement. en France et dans toute l'Europe, en tout cas. Et c'est une génération, en plus, qui est appelée spécialement à hâter la venue du royaume de Dieu, à participer à la moisson. On a vraiment une génération très particulière qui est en train de se lever. On le voit, nous, en tant qu'enseignant au Daniel, on voit que ces nouvelles générations, waouh, il y a une main de Dieu sur eux, c'est impressionnant. Une radicalité, une consécration, enfin, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et puis, donc, il y a cette puissance de mort. Alors, la suite est extraordinaire, c'est les fameux « mais » de la parole. « Mais », verset 11, « Yehosheba, fille du roi, prit Joas, fils d'Ahazia, l'enleva secrètement du milieu des fils de roi qu'on mettait à mort, et le mit avec ses nourrices dans la chambre d'Élie. Ainsi, Yehosheba, fille du roi Yoram, femme du sacrificateur Yehoyada, le mit à l'abri des regards d'Athalie qui ne le mit pas à mort. » Donc, il y a le « mais », les « mais » extraordinaires de la Bible, « mais Yehosheba ». Yehosheba, en fait, c'est comme Elisheba, comme Elisabeth, d'ailleurs. Elisheba, c'est-à-dire Dieu fait serment. Elisheba, c'est une femme de sacrificateur, donc sacrificateur, qui sait que Dieu est un Dieu d'alliance et un Dieu de serment, et elle ne redoute pas les stratagèmes et elle ne redoute pas de confronter Athalie, vous voyez ? Parce qu'elle connaît son Dieu. Et son mari, Yehoyada, ça veut dire « l'Éternel connaît ». On peut dire aussi, il connaît Dieu. En fait, Dieu est en train de lever un peuple de sacrificateurs qui connaît Dieu, qui est déterminé. Et vous savez, le peuple de ceux qui connaissent l'Éternel sera ferme, agira. Et on ne se laisse pas intimider. Même si c'est terriblement intimidant ce qui est en face. Terriblement intimidant. Parce que toutes les puissances de séduction, d'artifice, c'est sûr, c'est intimidant. Mais donc, il y a cette volonté. Et puis, on voit ce sacrificateur qui se lève. Il protège Joas, l'enfant appelé à régner. Ils rétablissent le trône. Ils rétablissent l'autel de Dieu. Il y a une magnifique restauration et beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie dans la restauration. Et après, il y a quelque chose d'assez triste qui se passe. Et pour nous, c'est un petit peu un avertissement. Ce sacrificateur, il meurt. C'est toujours dans 2 Chroniques 24. Pas de transmission. Curieusement, il n'y a pas de transmission. Il n'y a plus de sacrificateur auprès du roi Joas. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un rejet de l'onction prophétique. Ce fameux sacrificateur, il avait un fils qui est un prophète, Zacharie. Donc pas celui qui a écrit le livre, hein, Zacharie, un autre prophète, Zacharie. Et il y a un rejet de l'onction prophétique. Et le roi Joas fait mettre à mort Zacharie, le prophète. Et d'ailleurs, Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Et Dieu se souvient tellement de cette histoire que Jésus a cité Zacharie, celui-là, hein, dans Luc 11, 51. Le sacrifice de Zacharie n'a pas été oublié. Jésus en a parlé dans les évangiles. Donc il y a un aspect essentiel, sacrificature, prophétie et onction royale, onction de gouvernement. Il y a toute une restauration. Et il y a un appel majeur qui est lancé à l'Église, alors la nôtre bien sûr, puisqu'on est à fond dans l'éducation chrétienne, mais aussi dans tout ce qui est parentalité, mais aussi dans tout ce qui est soutien à la jeune génération. Je rappelle qu'au Daniel, on est voisins du Bercail, et qu'encore cette semaine, il y avait des cris de détresse d'enfants hein, au Bercail qu'on entend, nous. Donc c'est une seule jeune génération, c'est pas que les écoles chrétiennes, puis rien à côté, vous voyez, le Seigneur a un cœur pour toute la jeune génération, pour la parentalité. Et il appelle son Église, l'Église de France, à se lever pour dire non au projet de destruction des Athalies de notre temps. Non. Mais Yehoshaba se lève et on bâtit et on confronte avec argumentation, persuasion, mais aussi intercession et aussi adoration, etc., etc. Et proclamation et toutes les armes de guerre. Toutes les armes de guerre parce qu'on veut arracher cette jeune génération à ces puissances de destruction et puis la lancer dans sa destinée royale. Et juste cette semaine, un matin, je reçois très fort le Seigneur qui dit « Je suis en train de lever l'armée de Joël 2 ». Et ça, c'est énorme. Et on le voit hein, dans nos anciens élèves, ça vient, cette armée de Joël 2, c'est-à-dire qu'ils connaissent sa destinée, ils sont très reliés les uns aux autres, ils connaissent leur Dieu, ils sont extraordinaires, quoi. Donc il y a quelque chose de très, très, très puissant. Alors, je voudrais juste... qu'on se positionne, c'est un appel à la positionnement, peut-être Luc peut prendre le relais, et je voudrais qu'on le fasse pendant qu'on va prendre le chant « Tu as été immolé, tu as fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs ». Mais Luc, tu es la bonne personne pour consulter.
Tu as été immolé,
ouais.
Et puis ensuite,
ouais.
Le sang
peut se lever. D'accord, tu peux prendre le chant. Voilà, donc on... Je pense qu'on a une feuille de route, là, en tant qu'Église aussi, puis en tant que fils et filles de Dieu. Hein. Et je propose que ce qu'on a commencé là, par rapport à la bénédiction, eh bien, on puisse vraiment continuer à le mettre en pratique cette semaine. Donc on termine par un chant. Tu as été immolé, il n'est pas sur vos feuilles, mais on veut le... il est assez connu. En tout cas, sinon, vous l'écoutez simplement. Et puis, on terminera par un, si vous voulez, un temps de prière court, mais en votre nom à tous par rapport à ce qu'on a entendu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur.
Seigneur, on croit que tu es en train de lever une église de sacrificateurs, une église qui connaît ton cœur, qui connaît l'amour de ton cœur pour la jeune génération. Et qui est tellement rempli de ta vie, de la vie de sacrificateur, de la puissance de vie des grenades, tellement, tellement rempli qu'elle se lève et qu'elle accepte de confronter les œuvres de la mort pour amener la vie là où il y a la mort, pour arracher une génération à la mort. Tu lèves ton Église de France, l'Église Josué, mais aussi ton Église de France, tout entière, qu'elle comprenne ce mandat puissant pour la jeune génération de notre pays et des autres pays de ce monde. Parce qu'on a un appel, on le sait, pour l'enseignement, pour l'éducation, mais aussi pour les orphelins, pour les œuvres de compassion, Seigneur, qu'on a tellement, tellement créé partout sur la planète, qui nous ravive ton Église, tu l'as fait revivre. Tu l'as fait revivre pour qu'elle ait des œuvres de compassion au niveau de la jeune génération se lève, se multiplie partout. On peut se lever pour ceux qui veulent répondre à cet appel.
Tu as été immolé et tu nous as rachetés. Pour Dieu, notre Père, donne-nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu, notre Père, tu as été immolé et tu nous as rachetés. Pour Dieu, par ton sang, tu donne-nous un royaume des sacrificateurs. Pour Dieu, notre Père,
sur toi, et tu as donné ta vie afin de faire de nous tous aussi un royaume de prêtres et de sacrificateurs à ton modèle, afin de bénir nos entourages, notre pays, les nations, de bénir, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que ça accélère dans nos vies, que ça sorte de nos cœurs la puissance de la bénédiction pour changer les atmosphères. Seigneur, merci. Mais nous nous tenons aussi entre la vie et tout ce qui est de la mort, que ça soit dans la culture ou dans toute autre chose, Seigneur. Et nous élevons celui qui est ressuscité et qui a vaincu la mort. Et en tant qu'Église, nous sommes positionnés, Seigneur, entre la vie et la mort, et nous choisissons la vie, et nous choisissons de libérer celui qui est vivant en chacun de nous. Seigneur, tu nous donnes de sortir de nos torpeurs, de sortir des prisons, des échecs, des déceptions, et de nous lever comme un seul homme, afin de libérer la puissance de la vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour le manteau dont tu nous revêts collectivement ce matin. Au nom de Jésus, merci Seigneur.